Je m'appelle Arthur Grosjean, j'ai travaillé sur la guerre d'Algérie en métropole à diverses occasions pour l'Institut d'Histoire du Temps Présent et puis dans le cadre d'un projet collectif qui s'appelle Récits d'Engagement, qui a donné lieu à un ouvrage collectif avec entre autres Béatrice Hubel, Marianne Sivan, et qui a donné lieu à deux expositions, l'une au RIS à Villeurbanne l'année dernière et une autre aux Archives Municipales de Lyon. Donc, l'objet de la conférence, de l'intervention plutôt de ce soir, concerne les avocats lyonnais et la défense des indépendantistes algériens pendant la guerre d'indépendance algérienne, donc de 1954 à 1962. Pourquoi les avocats lyonnais ont-ils été impliqués dans la défense des indépendantistes? Parce qu'on... On mesure peut-être encore mal l'ampleur de la répression judiciaire dont les nationalistes algériens, MNA et FLN, ont fait l'objet en métropole et également en Algérie. Et c'est donc pour répondre aux besoins de défense de ces nationalistes algériens qu'un certain nombre d'avocats, lyonnais en l'occurrence, puisque c'est cela qui nous intéresse, se sont mobilisés. Avec des motivations diverses, ça peut être des motivations d'ordre éthique, défendre tous les accusés, veiller au respect de leurs droits. Ça peut être également des motivations plus idéologiques, celles d'une Algérie indépendante, celles du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ces femmes et ces hommes, donc, ont plaidé à des centaines d'occasions en métropole, en Algérie, et au-delà du fait de défendre un certain nombre de clients, ils ont aussi contribué à informer l'opinion sur les dérives de l'action policière et judiciaire, en évoquant dans les cours de justice, comme dans l'espace public, l'existence de la torture, l'existence de l'internement arbitraire qui avait lieu pendant cette guerre. Cependant, ces avocats n'ont pas constitué un groupe homogène. On le verra par la suite, on peut noter des différences assez importantes entre eux, différences liées à leur motivation et liées à leur façon d'agir. Donc il faut d'abord rappeler peut-être le contexte, pourquoi et comment la justice intervient-elle dans la guerre d'indépendance algérienne. Et avant même de voir le fonctionnement de cette justice, peut-être rappeler la présence des Algériens à Lyon. Une présence nombreuse et une population algérienne qui devient un enjeu d'une lutte du nationalisme algérien et d'une lutte entre les nationalistes algériens. En effet, à la veille de la guerre, il y a à peu près 10 000 résidents algériens à Lyon. C'est peu surprenant, cette population algérienne de France est une population ouvrière, on la retrouve donc dans les grands centres industriels dont Lyon fait partie. Il faut rappeler également que le nationalisme algérien est né en France. Il est né en France dans les années 1920 avec la création de l'étoile nord-africaine, puis ensuite avec le développement du mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques de Messel et Hadj, qui est très présent à Lyon. Le 1er novembre 1954, une nouvelle organisation nationaliste apparaît au grand jour, le Front de Libération Nationale, qui est issu d'une dissidence du mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques. Et dans les mois qui suivent, cette organisation... Le FLN est né en Algérie, cette organisation cherche à s'implanter en France pour encadrer et mobiliser les Algériens de France dont les cotisations permettent de financer en partie les combats qui sont menés de l'autre côté de la Méditerranée. Cette implantation du FLN, qui débute à Lyon en 1955, se heurte à celle du mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques qui, elle, est plus ancienne. Dans une ville comme Lyon, la constitution des casemas des cellules qui rassemblent plusieurs centaines de militants. Donc la constitution des Casmas rivales, celle du MNA, Mouvement National Algérien de Messaliade, qui succède au Mouvement pour le Triomphe des Libertés Démocratiques, et la constitution des Casmas FLN, donc le contrôle de la population algérienne, est l'objet d'une lutte dont la violence croît. En effet, entre 1957 et 1961, cette lutte dans l'agglomération lyonnaise se traduit par la mort de 150 personnes. 150 personnes tuées lors de fusillades entre organisations rivales, ou bien 150 personnes tuées lors d'assassinats qui sont parfois extrêmement spectaculaires, comme le montrent certains procès. À ces tueries, qui se prolongent jusqu'à la fin de la guerre, jusqu'en 1961, malgré l'affaiblissement du MNA et le triomphe numérique du FLN dans l'agglomération lyonnaise, s'ajoutent aussi des attentats contre les forces de l'ordre. En effet, en août 1958, la Fédération de France du FLN décide d'ouvrir ce qu'on a appelé le second front en France, autrement dit des attaques contre des infrastructures ou contre les forces de l'ordre. À Lyon, l'ouverture de ce second front se traduit en septembre 1958 par des attaques de postes de police et de commissariats. Ces attaques de postes de police et de commissariats provoquent des blessures pour un certain nombre de policiers et civils, et par la mort d'un brigadier. Il y a donc à Lyon une véritable violence de la part des nationalistes algériens. Et cette activité nationaliste est l'objet d'une répression qui est à la fois massive et croissante. Donc naturellement, le gouvernement français ne peut pas tolérer l'implantation de ces nationalistes pour les raisons qu'on a expliquées avant. Parce qu'ils alimentent la guerre en Algérie du point de vue financier, et puis d'autre part parce que ça se traduit par ce qui est considéré comme des troubles à l'ordre public. Et comme les gouvernements successifs, comme on le sait, ont toujours refusé de reconnaître officiellement que la France était en état de guerre, on ne peut pas faire la guerre à soi-même, étant donné que l'Algérie, c'était la France, selon la formule consacrée. Les militants ont fait l'objet d'une intense répression, tant policière que judiciaire. Ce n'est pas l'armée qui s'occupe de la répression des nationalistes sur le sol métropolitain. Donc Sylvie Thénault, historienne de la justice et de la répression pendant la guerre d'Algérie, a une formule éclairante: la participation de la justice à la répression des nationalistes et leurs partisans découle directement du refus de reconnaître l'état de guerre sur le sol algérien. Donc dès 1955, des rafles se multiplient dans les milieux algériens de Lyon et de sa région. Ces implantations, ce sont par exemple les bidonvilles des Beurs, vers la Doie. Ces implantations, ce sont les logements pour les ouvriers algériens de la Part-Dieu, ou bien ce sont les garnis de la rue Colbert, pour citer des exemples parmi les plus connus. Donc il faut imaginer une multiplication des rafles. Un commissaire divisionnaire se spécialise dans les affaires algériennes et se charge uniquement avec ses hommes de la répression des Algériens, et il est épaulé à l'occasion par des gardiens de la paix, par des CRS, tous les hommes dont la police peut disposer. Le commissariat de la rue Vauban, donc près de la préfecture où sont conduits les Algériens arrêtés, est à plusieurs reprises désigné comme un lieu de torture. Et à l'issue de l'enquête, les suspects sont confiés à la justice. Ils sont confiés à la justice quand suffisamment de preuves sont rassemblées contre eux pour qu'on puisse les déférer. Ceux contre lesquels la police nourrit des soupçons sans avoir rassemblé assez de preuves, sont dans un premier temps expulsés vers le territoire algérien. Pourquoi vers le territoire algérien? Parce que dès 1955, sur le territoire algérien, l'état d'urgence, puis à partir de 1956, ce qu'on a appelé les pouvoirs spéciaux, qui ont été votés par le Parlement, permettent d'interner des suspects sans avoir besoin de l'autorisation de la justice. À partir d'octobre 1958, donc après l'ouverture du second front, après les attaques de commissariat, les attentats commis par la Fédération de France du FLN, le système répressif qui existe déjà en Algérie s'étend pour les nationalistes algériens à la métropole. Ça signifie que les Algériens qui sont arrêtés, qui sont interrogés, parfois de façon extrêmement musclée, qui sont suspectés d'activités clandestines, peuvent être enfermés sur décision administrative pour des durées très longues. Ils peuvent être enfermés d'abord sur décision préfectorale dans ce qu'on appelle un centre de triage. Celui de Lyon est situé au Fort Montluc. Et puis, sur arrêté ministériel, ces Algériens suspects peuvent être enfermés pour des durées indéterminées dans des camps qu'on appelle des centres d'assignation en résidence surveillée. Le plus connu en France est celui du Larzac, donc situé sur le plateau du Larzac, mais il y en a un qui est beaucoup plus près d'ici, qui est situé sur la commune de Neuville-sur-Ain, donc à côté de Sondin, à 50 km à peu près, dans lesquels on peut enfermer un millier de personnes. Certains, d'ailleurs, de ces suspects algériens, qui sont arrêtés à la fin de l'année 1958, ne sont libérés des camps qu'en 1962. Donc, cette durée indéterminée peut s'avérer extrêmement longue. La répression policière a aussi un impact considérable sur le fonctionnement de la justice et des prisons à Lyon. Les affaires algériennes qui sont traitées par les tribunaux se multiplient. On en dénombre 400 pour la seule année 1958. Au début du conflit, ces affaires algériennes sont traitées par la justice normale. Autrement dit, les collecteurs de fonds, les cadres des organisations clandestines arrêtées contre lesquelles la police pense avoir rassemblé assez de preuves, sont déférés devant les tribunaux correctionnels pour atteinte à l'intégrité du territoire ou atteinte à la sécurité de l'État. Ces tribunaux correctionnels prononcent d'abord des peines relativement légères au début du conflit, de la prison avec sursis, des peines de prison courtes. Ces peines vont en s'alourdissant au fur et à mesure que l'activité des nationalistes devient plus patente et à mesure également que la guerre s'intensifie. À partir d'octobre 1958, du fait de l'extension des pouvoirs spéciaux à la métropole, c'est le tribunal militaire, le tribunal permanent des forces armées, qui siège à Montluc, ou dans le cas de Lyon, qui se saisit des affaires les plus graves. Ce tribunal permanent des forces armées condamne avec une sévérité accrue. Il prononce énormément de longues peines, entre autres de travaux forcés, et, plus spectaculaire, il prononce aussi des condamnations à mort par dizaines. Un tel contexte vient aussi modifier la population carcérale. Dans les prisons françaises, en 1958, on compte près de 10 000 Algériens, à une époque où la population carcérale est bien inférieure à ce qu'elle est aujourd'hui. Ça signifie donc un tiers des emprisonnés. Un tiers des emprisonnés en France en 1958-1960 sont des Algériens, sont des nationalistes algériens. Et à Lyon, on enregistre une proportion beaucoup plus élevée, puisque
à Saint-Paul, Saint-Joseph, ce sont 60% des prisonniers qui sont des nationalistes algériens. L'organisation de toutes les prisons de l'agglomération s'en ressent, au point que on compte 600 prisonniers à la prison Saint-Paul, essentiellement du FLN, au point qu'on est obligé de réouvrir certaines prisons qui avaient été fermées, comme la maison d'arrêt de Prévoux, parce que les prisons de Lyon ne sont plus capables d'accueillir une telle population carcérale. Signalons que ces prisons, ces camps, pour le FLN et dans une moindre mesure pour le MNA, restent des espaces de lutte, de formation politique. Il y a une hiérarchie FLN qui se reconstitue entre les barbelés ou entre les murs, avec également des classes, un système éducatif qui se forme, avec des mots d'ordre qui passent, avec des manifestations. Il y a par exemple en avril 1958 une rébellion, une émeute à la prison Saint-Paul, une mutinerie plus précisément, je cherchais le mot, à l'occasion de la fin du Ramadan. Et entre 1959 et 1961, à plusieurs reprises, les prisonniers organisent des grèves de la faim en particulier, pour obtenir le statut de prisonnier politique qu'ils n'obtiendront définitivement qu'à la fin du conflit, en novembre 1961. C'est dans ce contexte, donc, dans ce contexte de répression massive, que les avocats du barreau lyonnais, certains avocats du barreau lyonnais, ont assuré la défense des Algériens. Alors, ces avocats lyonnais, ils sont demeurés moins connus que tous ceux qui s'intéressent à la guerre d'Algérie connaissent le nom. On connaît Gisèle Halimi, on connaît Jacques Vergès, Roland Dumas, effectivement. Cependant, ils ont été extrêmement actifs. Alors, d'abord, une proportion. Ils sont demeurés minoritaires. Une trentaine, soit moins du quart du barreau lyonnais à l'époque. Au sein de cette minorité, si on essaye de dresser une typologie, une spécificité lyonnaise, c'est la présence massive de catholiques sociaux liés aux différents courants qui se développent à Lyon après la guerre. On peut citer par exemple Emma Gounod, Yves Berger, Paul Bouchet, Georges Cochet qui en sont représentatifs. Cependant, tous ne sont pas des catholiques sociaux. On trouve aussi quelqu'un comme François Lafiong, pénaliste célèbre, qui se déclare plutôt apolitique. On trouve également des gens qui étaient davantage proches des radicaux, qui n'avaient pas du tout d'investissement religieux. Une autre différence entre Lyon et d'autres barreaux, c'est l'absence de communistes. En effet, à Paris, au début de la guerre d'Algérie, les défenseurs sont très souvent des communistes. Ils sont évincés plus tard par le collectif Vergès. À Lyon, il n'y en a pas, semble-t-il, en partie parce qu'il n'y a pas d'avocats communistes déclarés militants à Lyon dans ces années-là. On en trouvera plus tard. D'autre part, ces avocats se distinguent en général, à quelques exceptions près, par leur relative jeunesse. Emma Gounod fait figure de doyenne de ces avocats qui assurent la défense des Algériens. Elle a à l'époque une quarantaine d'années. Les autres sortent des dernières promotions du barreau. Paul Bouchet et Pierre Colombi appartiennent aux générations qui sont issues de la résistance. En 1955, ce sont encore de jeunes générations. Des gens comme Bernard Jouy sont des avocats qui sont encore des stagiaires. Donc, il faut imaginer des gens qui ont entre 25 et 35 ans à l'époque. Avant même que ne débute la guerre d'Algérie, plusieurs d'entre eux sont déjà sensibilisés à l'idée de l'émancipation des colonies, et en particulier à celle de l'Algérie. Quelqu'un comme Paul Bouchet a eu des responsabilités dans les organisations étudiantes qui l'ont amené à voyager, à rencontrer des étudiants étrangers, à rencontrer des étudiants de l'Empire colonial. Yves Berger, lui, a une amitié profonde avec un avocat algérien installé à Lyon qui s'appelle Tribier Ben Dimerad et qui l'a également sensibilisé. Bernard Gouy a été enthousiaste pour l'indépendance de l'Inde et absolument écœuré par la guerre menée en Indochine. Ces avocats, pour une minorité d'entre eux, donc une minorité de la minorité, ont déjà eu à défendre des clients impliqués dans des affaires politiques. Et Mahmoudo a défendu pendant la guerre des résistants, après la guerre, des collaborateurs. Paul Bouchet, lui, a eu pour client des militants communistes de la région, en particulier des militants communistes hostiles à la guerre d'Indochine qui avaient mené des actions de grève, de protestation, de sabotage contre cette guerre d'Indochine. Au cours de ce conflit, donc, ces avocats lyonnais ont naturellement plaidé devant les tribunaux lyonnais, ceux qu'on a décrits précédemment, les tribunaux correctionnels, très rarement les cours d'assises, plus souvent les tribunaux militaires, le tribunal militaire, le tribunal permanent des forces armées. Mais ils ont aussi plaidé en Algérie. En effet, devant le nombre d'affaires qui passaient devant les tribunaux militaires algériens, les avocats algériens ne suffisaient pas. D'autant plus que beaucoup de ces avocats algériens étaient convaincus de la justesse de l'Algérie française et n'avaient pas envie de s'engager pour les nationalistes du FLN, du MNA, a fortiori quand ceux-ci avaient commis des violences contre les Européens d'Algérie ou contre l'armée. Ces avocats, qui ont-ils défendu? Des militants nationalistes, de ayant exercé différentes responsabilités, étant accusés d'actes plus ou moins graves. Ils ont aussi défendu à l'occasion les Français qui soutenaient clandestinement ces militants nationalistes. Donc, on a à Lyon, des avocats qui ont rempli une tâche extrêmement ardue tout au long de la guerre et qui ont été confrontés à toutes les facettes de la justice en guerre qu'a été cette justice pendant la guerre d'Algérie. Ces avocats, ils ont essayé de s'organiser. Ils ont essayé de s'organiser de différentes manières et à différentes occasions. La première mobilisation concertée d'une trentaine d'avocats lyonnais, elle s'est faite en faveur d'étudiants. Étudiants inscrits dans les facultés lyonnaises, qui appartenaient à l'Union Générale des étudiants musulmans algériens, l'UEGA. En effet, en 1956, en juin 1956, ces étudiants sont arrêtés, parce qu'ils ont diffusé des tracts qui appellent à la grève des cours et des examens dans le cadre d'un mouvement national. Ils sont accusés d'atteinte à l'intégrité du territoire et ils comparaissent le 28 juin 1956 devant le tribunal correctionnel. Et devant une salle qui est remplie d'étudiants auxquels se sont joints 25 avocats, 5 défenseurs plaident. Il y a donc présence massive des avocats lors de ce premier procès spectaculaire. Alors, ces 5 noms, ce sont Bouchet, Charpin, Bernardin, Berger, Kerr, donc certains que j'ai déjà cités. Ils n'hésitent pas à critiquer l'attitude de la police, ils appellent aux notions de liberté et ils réclament un verdict d'apaisement. Ils sont entendus, au grand dam du préfet d'ailleurs, qui est très très mécontent de cette décision, puisque le procès se termine par 9 acquittements. Il y a un seul condamné, il est par défaut puisqu'il est en fuite. Le deuxième temps fort, il se déroule entre décembre 1957 et février 1958. En effet, à Lyon, des Algériens ont été arrêtés et expulsés vers l'Algérie. Et comme je vous l'ai expliqué, l'expulsion vers l'Algérie signifie en général l'internement. Sans oublier que, en plus, des interrogatoires par l'armée ou par la police française sur le territoire algérien sont possibles. Donc, parmi ces Algériens expulsés, il y a un maître d'internat qui est lié à la chronique sociale, dont certains des avocats précités font partie. Ces avocats donc constituent un groupe de travail d'une quinzaine de personnes qui sont susceptibles de se rendre à tour de rôle en Algérie pour rencontrer les prévenus et pour assurer une défense collective. Donc il y a vraiment là la mise sur pied d'un premier collectif d'avocats. Ils essayent de défendre leurs clients, mais ne parviennent pas à leur éviter un internement administratif. Puisque avec l'internement administratif, la preuve finalement, ou l'absence de preuve ne compte pas. Ce qui compte, c'est la conviction des policiers et la conviction de la hiérarchie qui écoute ces policiers. Donc comme ils ne peuvent éviter l'internement administratif à leurs clients, ils se mobilisent aux côtés de diverses organisations de défense des droits. Ils informent le public le plus large possible des conséquences de ces atteintes aux droits et ils organisent une réunion dans la salle du Guignol Monguet le 12 février 1958. Dans cette réunion est bientôt interrompue par des militants d'extrême droite qui balancent des gaz lacrymogènes et ils se réfugient dans la faculté catholique. À cette occasion, Claude Bernardin, l'un des avocats, prononce une conférence qui s'appelle « Les pouvoirs spéciaux et les libertés individuelles ». La mobilisation ne faiblit pas dans les mois suivants, donc toujours en 1958. En mars, les conférences se multiplient, entre autres celle de Maître Deniot, qui participe à une réunion à la Bourse du Travail, à laquelle est venu participer également un avocat très célèbre du barreau parisien, aussi politiquement, René William Thorpe, et auquel participe Pierre Cotte, ancien ministre du Front populaire. Troisième temps fort, c'est ce qu'on a appelé l'affaire du Prado. Donc, l'affaire du Prado, elle retient l'attention des journaux régionaux et nationaux, parce qu'elle met en cause des prêtres, le père Chèvre, le père Magnin, donc prêtre d'une institution au service du monde veillé, et également le père Albert Carteron, qui s'occupe de la paroisse du Saint-Sacrement, donc dans le 3e arrondissement, proche de la paroisse. Pourquoi ? Parce que ces prêtres ont fourni un local aux familles inculpées, aux familles de prisonniers algériens. Et lors d'une perquisition, la police a trouvé dans ce local des fonds destinés aux prisonniers, des documents également. Ces Algériens sont questionnés dans le commissariat d'Arles-Vauban. Les Algériens, donc, annulent ce que les prêtres leur ont fourni. L'un d'eux, le père Magnin, est arrêté, inculpé d'atteinte à la sécurité du territoire national, qui fait un scandale. Et les avocats de ces prêtres, Claude Bernardin, Jean Delay, dénoncent aussitôt publiquement les tortures dont ont été
hématomes, des plaies qui vont conserver plusieurs mois. Ils sont entendus par un juge d'instruction sur un ordre d'expertise médicale, le juge Marcof, un des rares juges d'instruction qui allait à cette époque à l'encontre des recommandations judiciaires. Et surtout, grâce à leur relation au sein du clergé catholique, ces avocats filent à Rome, où se tient à l'époque le conclave pour l'élection du pape Jean XXIII, et ils obtiennent du cardinal Gerlier, le cardinal de Lyon, donc une lettre au président de la République, une déclaration publique qui sera publiée dans la croix, dans laquelle les prélats défendent les prêtres, réfutent les accusations dont ils sont victimes, et condamnent énergiquement la torture. Ils obtiennent donc une prise de position de la part d'un des plus hauts membres, et très visiblement, de l'Église de France. Le procureur de la République essaye d'obtenir des sanctions contre ces avocats pour violation du secret d'instruction, mais il ne parvient pas. Les avocats sont défendus par Norbert Denier et le ministre de l'Intérieur est obligé de publier un communiqué dans lequel il réfute l'usage de la torture, il réfute les violences qui auraient été faites aux prisonniers. Donc on voit ici vraiment la mobilisation d'avocats soutenus par le barreau et qui contribue à révéler que la torture n'est pas seulement pratiquée en Algérie, pour ceux qui veulent le savoir le savent à cette époque, mais qu'elle est aussi pratiquée dans les commissariats français. Cette affaire du Prado va finalement s'enliser, se perdre dans les méandres de la procédure et n'aboutit finalement pas à des condamnations.
Se pose la question pour ces avocats des liens qu'ils entretiennent avec les organisations nationalistes. C'est une question qui peut sembler inintéressante, cependant, à l'époque, elle l'est. Comment se comporter avec une organisation politique clandestine qui fait la guerre, à l'État français? Donc, au printemps 1959, la Fédération France du FLN décide de prendre en main de façon systématique la défense de ses membres. Donc, le FLN a confié aux avocats musulmans qui sont présents en France, comme Mourad Moussaidi, ou comme Abessama Ben Abdallah à Paris, ou comme Kébir Ben Imerad à Lyon, va confier aux avocats musulmans, aux avocats algériens, d'organiser des collectifs d'avocats, de rassembler autour d'eux des avocats sympathisants, d'assurer la défense, mais une défense politisée de ces Algériens ainsi que dans les tribunaux. Ces avocats qui rentrent dans ces collectifs sont indemnisés directement par le FLN. Indemnisés pour leurs déplacements, leurs hébergements. On ne parle pas de rétribution, hein, mais bien d'indemnisation. Quand ils le peuvent, ces avocats qui acceptent de collaborer avec le FLN doivent donner à ces affaires le plus large écho possible grâce à un système de défense agressive, de défense politisée, en s'adressant à la presse s'ils le peuvent. Et les accusés ont pour leur part la consigne de se présenter non pas comme des accusés de droit commun qui essayent d'échapper à leur responsabilité, d'atténuer leur responsabilité, ils sont chargés de se présenter comme des combattants, dans le cadre d'une guerre. Ces avocats qui rentrent dans les collectifs du FLN
se charge aussi de faire passer des informations aux prévenus ou aux condamnés qui sont entre les murs, de façon à ce que, comme j'expliquais précédemment, la lutte se poursuive, y compris dans les lieux de captivité. Donc, à Lyon, c'est Mourad, c'est Rivière des Générales qui va occuper cette organisation. Rivière des Générales, c'est un jeune avocat qui est né en 1926 à Tlemcen, mais qui a fait ses études en France et qui s'est inscrit au barreau de Lyon en 1953. Donc, j'ai dit aussi, il est très gai, il est bien amitié avec un jeune avocat lyonnais qui s'appelle Hilberto. Rivière des Générales est surveillé, inquiété par la police dès 1957, il subit une perquisition de son cabinet. Cependant, il échappe aux poursuites. Il est également menacé de mort par l'UMNA, l'organisation rivale du FLN, accompagné pendant un moment d'un garde du corps. Là aussi, il échappe aux attentats de l'UMNA. Selon les renseignements généraux, il reçoit une somme de 150 000 francs mensuels qu'il distribue aux avocats qui font partie de son collectif. C'est lui également, semble-t-il, qui présente, c'est lui qui présente les doléances des prisonniers du FLN lorsque ceux-ci font des grèves de la faim. Il est quand même obligé de se réfugier à Lausanne en février 1960. Pourquoi se réfugie-t-il à Lausanne? Parce qu'en février 1960, plusieurs avocats sont arrêtés en France, entre autres Noël Zébouik, Abdessana Benabella, et à ce moment-là, les responsables du collectif, les responsables d'une importance du collectif d'avocats, qui n'ont pas encore été arrêtés, se réfugient un temps en Suisse, c'est le cas entre autres de Jacques Vergès, c'est aussi le cas. Le Kébir des Générales. C'est ce collectif, cependant, ne forme pas une structure rigide. Il n'y a pas une hiérarchie totalement établie, il n'y a pas de cadre. Donc, Kébir des Générales peut compter sur certains proches, comme par exemple Yves Berger, comme Delec, qui consacrent une assez grande partie de leur activité d'avocat à la défense du nationalisme algérien, même si par ailleurs ils défendent d'autres clients parce que il faut aussi faire tourner la boutique, comme disaient certains. Mais il fait aussi appel à l'occasion à des confrères qui eux s'investissent assez peu politiquement, mais ils considèrent qu'il est juste de défendre les nationalistes algériens. Beaucoup de ces avocats investis dans le collectif traversent régulièrement la Méditerranée. L'un d'entre eux s'appelle Hubert par un pont aérien. Ils vont donc des dizaines de fois en Algérie, jusqu'à ce que l'ambiance en Algérie devienne trop dangereuse, c'est-à-dire avec le développement de l'OAS dans la deuxième partie de l'année 1961. Cependant, ces avocats lyonnais entretiennent des liens avec le collectif parisien. Pas les avocats lyonnais d'un côté, les avocats parisiens d'autre. Ainsi, les avocats parisiens les plus célèbres, ceux que la presse qui le plus vient aider à Lyon, de temps à autre, Jacques Vergès vient plusieurs fois, Adrien également. Et puis, ces avocats lyonnais vont aussi s'aider aux côtés des avocats du collectif parisien à diverses occasions. Par exemple, à l'occasion du procès d'avocat qui est la plus célèbre, qui est le procès de Bourkian, donc le procès contre lequel ont été, procès dans lequel étaient jugés les responsables de l'attentat de Bourkian, près de Marseille, en 1958. Les membres de l'hôtel avaient exposé à ce moment-là des gros dépôts d'essence. Mais un certain nombre d'avocats lyonnais ne veulent pas faire partie du collectif du FLN. Ils sont parfois même assez hostiles à cette politisation, à cet investissement auprès d'une organisation clandestine. Certains ont fait en effet que l'avocat doit rester libre de ne pas dépendre d'une organisation et pensent aussi que l'avocat doit rester dans la stricte légalité. Donc ne doit pas faire, par exemple, passer des courriers clandestins, des consignes, de la part d'une organisation illégale. Donc Emma Doudot ou Georges Pochet s'inscrivent dans cette démarche, ils expliquent leur motivation. L'avocat est toujours du côté de ceux qui sont réputés à leur tort. Donc il faut assurer la défense de tout le monde. Ils sont attachés à la préservation des droits. Je juge scandaleux l'internement, plus scandaleux les systèmes qu'on a décrits auparavant, par exemple l'expulsion d'un génie. Mais, par contre, ils veulent rester étrangers à la liste des Algériens. On peut citer Georges Pochet, par exemple, l'indépendance de l'Algérie, ce n'était pas mon affaire à moi français, c'était l'affaire des Algériens, leur responsabilité. Moi, j'étais responsable de la défense, que les Algériens poursuivis devant les tribunaux français soient défendus devant une justice respectable et appliquant un certain nombre de principes à l'égard des droits de l'homme. Ces avocats, donc, qui tiennent à rester indépendants, vont petit à petit être écartés de la défense des membres du SLN, même si, à l'occasion, ils acceptent les commis d'office, même si, à l'occasion, ils assurent la défense de prévenus quand, je dirais, il n'y a pas assez d'avocats disponibles. D'autres avocats, enfin, choisissent de rester isolés. C'est le cas de Pierre Colindy, ancien résistant, qui assume pleinement sa sympathie pour la cause de l'indépendance algérienne, qui accepte de prendre en charge la défense de tous ceux qui sollicitent, qu'ils soient du FLN, qu'ils soient de l'UNA, de façon indifférenciée, et qui agit ainsi en soutenir par fidélité à son idéal résistant. Il était bien évident qu'ayant agi contre l'occupation de la France par l'Allemagne, j'étais tout prêt à aider ceux qui avaient eux-mêmes agi pour l'indépendance de leur pays, l'Algérie, parce que l'Algérie, ce n'était pas la France. Pour moi, c'était la suite logique de mon engagement 10-15 ans auparavant. Et, pour montrer la cohérence de sa démarche devant des magistrats militaires qui perçoivent parfois extrêmement mal, les avocats sont parfois accusés d'être des avocats de FLN, les avocats de l'UNA sont parfois accusés, implicitement ou explicitement, d'être des traîtres. Donc, pour montrer la fidélité à cette idée, il arbore sous sa robe d'avocat la croix de guerre et la médaille de la résistance. Précisons que les différences éthiques, ce sont des différences finalement qui n'empêchent pas ses confrères d'être amis et de collaborer. Ils n'ont pas le même engagement, ils n'ont pas forcément les mêmes motivations, cependant, ils sont prêts à travailler sur les mêmes dossiers, ils sont prêts à participer à des défenses collectives. C'est le cas, par exemple, lors du procès des défendeurs de la loi, un procès célèbre en février 1960, au cours duquel les assassins du FLN, les assassinés des membres du FLNA, étaient accusés. Question se pose ensuite de la façon dont on défend les nationalistes algériens. Donc cette défense des nationalistes, elle varie selon de nombreux facteurs. D'une part, l'avancement du conflit, la gravité des faits qui sont reprochés aux accusés, et puis la validité ou l'insuffisance des preuves qui ont été rassemblées par la justice lors de l'instruction. Les avocats de paix, en général, sont restés des juristes. C'est-à-dire qu'ils ont, comme ils disent, fait des dossiers. Ils ont cherché les failles, ils ont cherché l'absence de preuves, l'inanimité des preuves. Ils ont cherché également à montrer des circonstances atténuantes comme il y en avait. Tout ce qui pouvait favoriser leurs clients était repris dans les dossiers. Donc, par exemple, en 1960, l'hôpital lyonnais, plaide devant le maître Berger, Guy et Lachong, entre autres, plaide pour des clients qui sont accusés d'être des collecteurs de fonds du FLN, qui sont accusés d'avoir séquestré les Algériens qui refusent de soumettre à leurs exigences, et ils obtiennent l'acquittement en démontrant que la responsabilité de leurs clients est impossible à faire. Donc on arrête de défendre tout à fait claire. Cependant, cette défense classique n'empêche pas de recourir aussi à des arguments politiques. Par exemple, en décembre 1959, Bernard Houdin part en Algérie, à Orléans-Ville. Il défend des combattants du FLN qui sont accusés d'assassinat, de séquestration, d'incendie. Et, à cette occasion, il dénonce les sévices, les tortures dont ont été victimes les accusés lors des interrogatoires. Il argumente également en évoquant le contexte politique. On est à une époque de négociations. Le général de Gaulle a engagé des négociations avec le FLN. Il souligne aussi la différence entre les accusés de lutte politique et de simples accusés de droit commun. Alors, malheureusement, il ne parvient pas à éviter la condamnation à mort à ces clients. Enfin, troisième type de défense qui est pratiqué par les avocats dans ce conflit, c'est ce que Jacques Vergès a théorisé comme étant la défense de rupture après la guerre. C'est une défense qui conteste purement et simplement l'autorité des tribunaux dans un contexte de guerre. Il faut préciser que la défense de rupture, elle émane souvent des accusés eux-mêmes, qui la réclament et qui l'animent. En particulier, les accusés qui se savent condamnés par avance parce que les preuves de leur culpabilité sont établies, ou bien parce que ils ne pourront pas convaincre le jury d'un tribunal militaire. Donc, qu'est-ce que c'est cette défense de rupture? Elle consiste à dénier l'autorité du tribunal, elle consiste à se réclamer comme un combattant, comme je vous disais, je suis combattant de l'ALN et du GPRA, je me défends de seul, je ne vous reconnais pas, dit l'ALN, déclare un accusé de tentative d'assassinat contre des policiers en 1960. À partir de janvier 1960, c'est prévu, donc ils choisissent de défendre le pur, exigent même purement et simplement le silence de la part de leurs avocats. Qui énerve le tribunal des forces armées de Lyon, qui essaye de forcer les avocats à plaider quand même, ce à quoi ils se refusent, et le barreau, leur avocat, leur donne raison contraire. Donc la défense de rupture, elle émane avant tout des accusés. Cependant, à d'autres occasions, les avocats animent également cette défense de rupture. Exemple, Yves Berger, lors de l'incendie de Mourcianne, attaque l'inanité d'une accusation de trahison de la part d'un des magistrats et demande le tribunal permanent des forces armées de Marseille va-t-il proclamer à la face du monde que la France est en guerre avec le National. Donc on voit ici qu'on a un avocat qui dépasse largement les faits qui sont reprochés à ces clients et qui proclame dans une cour de justice la réalité d'une guerre que personne n'admet officiellement à l'époque. Pourquoi proclamer une guerre? Parce qu'on ne fait pas de la même manière un prisonnier de guerre qu'un criminel. C'est donc un des enjeux qui est proclamé assez souvent par les avocats du collectif du FLN. Les lois de la guerre doivent s'appliquer à ces combattants nationalistes. La Convention de Genève doit les protéger. On ne peut pas les juger. autre procès pour l'utiliser, autre dépense sur rupture, c'est le procès qu'on a appelé celui de la Wilaya 3, qui déroule en avril 1961 à Lyon. C'est un procès qui est couvert avec attention par la presse régionale, nationale, parce qu'elle implique des Algériens, mais aussi des Français qui ont porté assistance à ces Algériens, qui ont participé à un réseau de soutien clandestin. Ce qu'on appelle parfois le réseau Beuglin. Là, il y a vraiment une défense nocturne de la part à la fois des accusés et de la défense. Par exemple, Claudie Duhamel et Jean-Jacques Brochier déclarent un peuple qui n'est pas un peuple libre. Je ne considère pas que c'est ma partie. Je pense ici représenter également une certaine expression de la France. Les avocats pour décider un certain nombre de témoins, je dirais, beaucoup plus généraux qui sont là pour soutenir l'hostilité à la guerre d'Algérie, pour soutenir l'insoumission. C'est le cas, par exemple, de Cardinal Macaire, qui, comme vous le savez, sûrement anime à l'époque un certain nombre de publications pour dénoncer la torture et pour dénoncer la guerre d'Algérie. Et puis, Claude Bernardin déclare, en conclusion, supprimer la guerre d'Algérie, il n'y a plus de procès. Ben Dimera, lui, déclare, ils ont raison contre leur juge, ils sont demain l'absolution de la France. Ces avocats lyonnais ont également fait face à l'aspect le plus noir de cette répression, c'est les exécutions. En effet, le tribunal militaire de Lyon s'est distingué par le nombre de condamnations à mort qu'il a prononcées. Approximativement, je n'ai pas pu faire un décompte précis parce que je n'ai pas eu accès forcément au dépôt d'archives qui m'aurait permis de faire, approximativement une certaine. Parmi les condamnés, 11 ont été effectivement exécutés. Les autres ont été graciés, ou bien l'amnistie qui est arrivée avec les accords d'Évian leur a permis de sauver leur chef. 11 exécutions, c'est énorme. Ça signifie que plus de la moitié des exécutions de nationalistes algériens qui sont déroulés en métropole pendant le conflit se sont passés à Lyon. Pas à Marseille, pas dans la cour de la santé, mais dans notre pays. Tous les avocats qui ont eu un ou plusieurs clients se remémorent toujours avec horreur l'événement dont ils ont été témoins, la violence de l'événement, le réveil des condamnés au petit matin, qui s'accompagne à mon lieu de chants patriotiques de la part des survivants qui sont dans le quartier des condamnés à mort, qui rappelle curieusement des scènes racontées pendant l'occupation. Au-delà de la violence dont ils sont les témoins, ils gardent aussi un souvenir très vif de l'entrevue qu'ils ont eu avec le général de Gaulle, puisqu'ils ont tous fait des recours en masse pour leur président. De l'impassibilité du général de Gaulle, et surtout, ils gardent un souvenir très amer du fait que ces masses, ils ne les expliquent que par la raison d'État. On gratifie quand il faut négocier avec le FLN, on se montre plus sévère au moment où ces négociations échouent, ou bien quand il faut donner des gages aux ultras en Algérie, par exemple après la semaine des 24, de montrer que le pouvoir se montre ferme, qu'il ne lâche pas l'Algérie. En effet, la décision de faire exécuter ou gratter les condamnés à mort donne au pouvoir politique un moyen de réguler la répression judiciaire en l'adaptant aux besoins du moment. Il faut Par conséquent, prononcer des peines de mort, exécuter des condamnés, c'était vraiment un signe très fort qui était envoyé aux nationalistes algériens. On peut signaler d'ailleurs que contre ces condamnations à mort, il y a eu des mobilisations. La plus célèbre, c'est celle qui a été faite en faveur d'Abderrahmane Al-Sissi. En effet, en juin 1960, entre juin et juillet 1960, plusieurs exécutions ont eu lieu. Une fuite se produit et les journaux sont prévenus deux jours à l'avance de l'exécution d'Abderrahmane Al-Sissi, qui est l'un des responsables des commandos qui ont attaqué un poste de police, mais qui n'a tué personne. Aussitôt, les avocats de Metz s'investissent dans des pétitions, organisent des mouvements de protestation. Le Secours populaire s'investit également. Plusieurs intellectuels français de droite ou de gauche signent une pétition pour obtenir la grâce de la justice, qui est également partie de l'Angleterre. Des gens comme Rouchet, comme Nehru, tentent de faire pression sur De Gaulle pour épargner les condamnés à mort. Rien n'est fait, il n'est exécuté. Donc, en conclusion, l'évocation des avocats algériens, c'est aussi l'évocation de la justice en guerre d'Algérie, plus sur le territoire métropolitain qu'en Algérie. Le moment algérien passé, la plupart de ces avocats sont retournés à leur carrière classique, de pénaliste pour les uns, de spécialiste plutôt du droit civil du droit des affaires pour d'autres. Ceux qui ont prolongé leur engagement politique sont finalement assez minoritaires. La Claude Bernardin, dans le cercle Tocqueville, proche des socialistes, ou bien Paul Bouchet, lui, à travers plutôt la défense des droits et l'action humanitaire. Ces avocats sont différents de la plupart des Français qui se sont engagés aux côtés des nationalistes algériens, également parce que leur profession leur garantit un certain nombre de droits. Donc, ils n'ont pas encouru les menaces qui étaient liées à la clandestinité, et leur profession leur a donné une liberté de parole que finalement peu de gens avaient pendant cette guerre, ou la censure régnait, ou la peur également régnait. En tout cas, ils montrent que des engagements étaient possibles. Et ils ont largement contribué à rendre public les aspects de la répression que le pouvoir aurait.